au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Michel Arnois.
Édition de ce 11 juin 2026, on parlera à Éric Richard. Qui est-il? Il est le directeur de la DPJ Lanaudière. On parlera statistiques avec lui. Dominique Vincelli-Lorrain, elle est intervenante en sensibilisation et en services externes à la maison d'accueil La Traverse. On aura évidemment les nouvelles... Excusez-moi. Un chat dans la gorge, miaou, comme dirait l'autre. Alors, on aura les nouvelles, bien sûr, avec Marie-Pierre Poulin à la demi de l'heure. 16h38, on parlera à Steve Mador, maire de Saint-Sulpice, de l'inauguration de la Route Bleue. Et avec Jacques Plante, presque en fin d'émission, on vous parlera de la législation sur les réseaux sociaux des moins de 16 ans. Ça risque d'être fort intéressant. On a des idées bien arrêtées sur le sujet et vous en avez, j'en suis convaincu, vous également. Mesdames, messieurs, bonne émission! Il est 16h06 minutes. Avant de sauter dans le vif du sujet, j'aimerais féliciter deux écoles qui se sont méritées des prix. Une de 5 000 $, l'école primaire de Saint-Alphonse à Saint-Alphonse-Rodriguez. Pourquoi? Ben parce que la Commission des normes et d'équité de la santé et sécurité au travail a remis plusieurs prix dans le cadre de sa 5e édition du programme KINGA. Ça, c'est un programme prévention jeunesse. On explique quelles sont les normes de la santé et de la sécurité au travail avec des jeux, avec des quiz, toutes sortes de trucs comme ça. Et l'école gagnante dans la région de la Lanaudière, c'est l'école Entre Amis de Repentigny. Alors, bravo à ces deux institutions qui nous représentent très bien.
Lanaudière PM. Société.
Eh bien, la Direction de la protection de la jeunesse dans la Lanaudière note une certaine stabilité au chapitre des signalements traités. Pour vous donner une idée, au cours de la dernière année, il y a eu 11 818 signalements qui ont été traités. Et l'année précédente, c'était 11 909. Donc, il y en a eu pas loin d'une centaine de moins cette année. Il y a François Morin, notre collègue, qui discute avec le directeur de la DPJ Lanaudière, Éric Richard, avec qui il va au-delà des statistiques.
Au cours de l'année 25-26, c'est certain qu'une des premières choses, vu que c'est un bilan annuel, provincial puis aussi régional, ça nous permet de voir, faire des comparatifs, à savoir est-ce que, premièrement, est-ce que Lanaudière se distingue plus particulièrement pour certaines choses comparativement provinciales. Et ma première lecture cette année, et à l'effet, là, dans le fond, puis aussi comparativement à l'année dernière, qu'on est dans la moyenne au niveau des standards, que quand on fait des comparatifs aux autres régions, que ce soit tant au niveau de le volume d'augmentation, par exemple, au niveau des signalements traités, au niveau des signalements aussi qui sont retenus, qui nécessitent, dans le fond, une évaluation de notre part. Autant aussi sur le taux de rétention, c'est-à-dire les dossiers qui, après une évaluation, nécessitent une prise en charge par le directeur de la protection de la jeunesse, c'est quand même assez stable. Je compare l'année passée, puis si je regarde aussi au niveau provincial, je ne vois pas là, quelque chose qui distingue plus particulièrement la Lanaudière. Ça, c'est la première lecture que j'en fais. Mon interprétation, c'est que pour l'instant, la stabilité, je trouve que ça peut être une bonne chose. Toutefois, faut toujours continuer à améliorer nos pratiques puis nos façons de faire et toujours aussi travailler plus en partenariat. Et c'est vraiment qu'est-ce que j'ai commencé avec mon équipe de gestionnaire puis avec les intervenants sur le terrain à travailler davantage en partenariat. Et ça va peut-être avoir un impact dans les années futures. Ça amène aussi le thème, dans le fond, de cette année, à savoir est-ce que les enfants sont toujours une priorité. C'est vraiment en lien avec qu'est-ce qui se passe au niveau socio-économique, avec aussi les décisions qui sont prises, tout ça. Faut vraiment travailler ensemble. Et présentement, au niveau des statistiques annuelles, il n'y avait rien de préoccupant qui est ressorti là, à notre niveau.
On s'en était parlé, je crois, l'an dernier, justement, lors du bilan, que vous aviez l'intention là, de travailler davantage en partenariat avec des gens qui ne sont pas nécessairement dans la boîte. Faut croire que ça a effectivement là, commencé à donner des résultats.
Oui, ben c'est sûr qu'il y a une fierté, je dirais, collective là, pour Lanaudière. Puis quand je parle de fierté collective, oui, c'est la direction de la protection de la jeunesse, mais ça inclut aussi les autres directions. Clinique, où ce que toute la jeunesse au CIS de Lanaudière est vraiment une priorité. Puis c'est pas juste des paroles, c'est aussi par geste. Puis ça, c'est ça que je trouve que c'est vraiment un sentiment de fierté, c'est que ça avance et on crée des partenariats qui, à la base, étaient des fois parfois inexistants. Que ce soit Par exemple, on a parvenu à consolider un partenariat avec les trois maisons d'hébergement sur notre territoire en violence conjugale. Il y avait une thématique il y a quelques années qui c'était vraiment le thème de la bilan des DPJ, de l'exposition à la violence conjugale, qui a ouvert la porte en disant, je pense qu'il est temps où ce qu'on travaille, qu'on puisse mieux travailler ensemble et mieux se connaître et démystifier aussi le rôle de chacun. Pour moi, c'est une belle réussite. On garde chacun notre mission, mais c'est juste qu'on est capable de travailler mieux ensemble dans les moments opportuns pour les enfants exposés à la violence conjugale. Ça, c'en est un exemple. Parmi les autres exemples que je peux vous nommer, on est en train, là, dans le fond aussi, c'est une autre priorité au niveau de la jeunesse, c'est tout le partenariat avec les organismes communautaires qui sont spécialisés pour le territoire de la Nadière en l'approche interculturelle, puis aussi pour les nouveaux arrivants. On le sait, là, dans le fond, qu'il y a des gens qui arrivent à Joliette, notamment, qui n'ont pas de repères au plan social. Et il y a tout le défi de l'intégration. Il y a Crédil qui accompagne ces familles-là qui arrivent. Et nous, on avait le souci de dire comment qu'on pourrait travailler mieux avec ces organismes-là. Puis, je suis présentement en rencontre avec les organismes pour établir justement une forme de comment qu'on peut travailler ensemble pour prendre en charge collectivement ces familles-là. Ça, c'est un autre exemple. Les centres de services scolaires aussi. Vraiment, on a fait un pas de géant dans la concertation, dans la compréhension des défis qui sont propres à chacune des missions. C'est vraiment... je trouve un indice, pour moi, un indicateur que la région de la Nadière se mobilise pour ses enfants. Et j'ai beaucoup d'exemples concrets comme ça où ce que vraiment je sens que les gens ont une ouverture face à la DPJ, qu'ils veulent travailler avec nous, puis aussi sentent le respect, dans le fond, que on envers leur mission puis leur offre de service.
On constate, et on le voit dans le communiqué, là, vous en faites mention, que de plus en plus, les jeunes, comme dans la population générale, on a des problématiques de santé mentale. Et là, vous y allez de certaines recommandations.
Ben, c'est sûr que un des messages forts, puis je vais faire une continuité avec l'année passée, puis que je trouve intéressant avec le bilan de cette année, c'est que je trouve que ça s'installe vraiment en continuité de celui de l'année passée. L'année passée, le thème, c'est au-delà des signalements, c'est protéger collectivement les enfants. On ouvrait la porte à dire qu'il faut travailler mieux ensemble. Et on peut pas croire que la DPJ seule peut y arriver avec toutes les situations. Et aussi, il faut surtout pas être la porte d'entrée. Et c'est là qu'on voulait, dans le fond, lancer un message de dire il y a moyen de travailler différemment que de faire un signalement. Puis c'est pas la porte d'entrée de faire un signalement pour avoir accès au service. Et c'est là que ça ouvre la porte sur différents partenariats, mieux connaître aussi les offres de service de chacun. Des fois, on se rend compte qu'une méconnaissance, on pense comprendre qu'est-ce que un organisme communautaire, ou même nous à l'interne, des fois, l'offre de service qui est offerte, c'est quoi les critères de référencement, tout ça, on pense bien comprendre. Puis quand on prend vraiment le temps de regarder tout ce qui s'offre en jeunesse, c'est là qu'on fait des fois des apprentissages collectifs et on est à ce moment-là plus en mesure de bien diriger l'enfant et sa famille au bon endroit pour le bon service. Quand on parle de fragilité au niveau de la santé mentale, c'est sûr que ça vient des données au niveau provincial. Il y a des chercheurs qui sont penchés là-dessus. C'est sûr que si je regarde au niveau régional, il y a tout le repérage en amont qui est super important. Puis nos partenaires scolaires sont très importants dans le continuum de services, dans justement détecter, référer au bon moment. Puis c'est là qu'on développe des partenariats avec eux pour éviter justement que la situation se dégrade et que ça arrive à un signalement chez nous qui a une prise en charge. C'est vraiment ça le message, un des messages forts qu'on veut lancer cette année, c'est... On a fait un appel à tous, puis pour la Nadière, les partenaires sont au rendez-vous. J'ai pas d'enjeu de partenariat, de partenaires qui ferment les portes dans la Nadière.
En terminant.
C'était Éric Richard, directeur de la DPJ de la Nadière, avec notre collègue François Morin. De l'autre côté des publicités, on parle à Dominique Vincelli-Laurent, intervenante en sensibilisation et en service externe à la maison d'accueil La Traverse.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte?
Bingo! Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ à Crabtree Dépanneur du Centre, Dépanneur Crabtree Vidéo, Marché Beaulieu, l'expert dépanneur Beaussoir. à Notre-Dame-de-Lourdes, dépanneur Gabi, à Sainte-Élisabeth, dépanneur chez Napole, à Saint-Félix-de-Valois, dépanneur Estelle, Métro Boucher, Tabagie Saint-Félix, dépanneur Proxy Extra et marché IG à Rainville, à Saint-Jean-de-Mata, supermarché Métro, l'expert dépanneur Beaussoir, marché Express Ultramar, dépanneur du Lac-Noir et à Saint-Damien, marché Métro Imerie, dépanneur Le Rendez-Vous. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Bonjour, ici Carole. Comme je sais plus comment vous le dire, je vais vous faire un dessin. Une image vaut mille mots qui disent. Un gros feu de rebut avec un bidon d'essence. Là-dessus, tiens, un beau gros X. Un feu de camp pas éteint, qu'un toi, on le barre. Un mégot de cigarette dans le bois, tu le vois? Ben un gros X là-dessus aussi.
Excuse Carole, justement, on le voit pas parce qu'on est à la radio.
T'es-tu sérieux, là? Regarde, c'est simple. Évitons les feux évitables. J'espère que c'est clair.
Un message de la SOPFEU avec la participation financière du gouvernement du Québec.
C'est spectaculaire! Venez assister au circuit de motoneige sur l'eau du Québec ce samedi 13 juin dès 11h à Lavaltrie. Course en ovale, saut, drague, ski nautique derrière une motoneige. Vos yeux seront rivés sur le spectacle. De vrais motoneigistes se confrontent pour remporter la course. Mais sur l'eau, c'est un rendez-vous ce samedi 13 juin dès 11h à Lavaltrie. Sortie 2 de l'autoroute 31 pour les motoneiges sur l'eau. Une invitation de La Pointe Sport.
Bonjour, c'est Kim de Joliette Nissan. C'est l'événement marqué avec Nissan et cet été, c'est à nous de jouer. Obtenez le Rogue S 2026 à traction intégrale en location 36 mois pour seulement 99 $ plus taxes par semaine, sans aucun comptant initial. Profitez également de taux de financement aussi bas que 0% à l'achat jusqu'à 60 mois. Venez également en concession voir notre tout nouveau Rogue hybride disponible dès maintenant. Joliette Nissan, parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Au 99.1, 88.9, CFNJ. C'est Lanaudière PM avec Michel Arnois. Lanaudière PM, services sociaux.
Eh bien, selon une étude menée par le DPCP, près de la moitié des personnes accusées de violences conjugales ne respectent pas les conditions imposées dans leur dossier. Et c'est une statistique qui est conforme à l'expérience vécue par la maison d'accueil La Traverse. Ça, c'est une résidence pour femmes ayant subi de la violence conjugale, dis-je bien, située à Joliette. Marie-Pierre Poulin, notre collègue, s'est entretenue avec l'intervenante en sensibilisation et en services externes, Dominique Vincelli-Laurent.
Donc, hier, en fait, il y a des données du DPCP qui sont sorties, comme quoi il y a un accusé sur deux qui respecte pas ses conditions dans les dossiers de violence conjugale. C'est inquiétant quand même, j'imagine, comme situation?
C'est inquiétant comme situation. Par contre, en toute transparence, on est quand même un petit peu au courant. Là, dans la réalité, c'est vraiment ce qu'on vit. Donc, c'est pour ça aussi que je pense qu'il y a de plus en plus là, d'appels au niveau d'avoir un hébergement d'urgence, soit de 24 heures ou 48 heures, parce que justement, les femmes, elles ont peur, surtout en attendant les procès, tout ça qui peuvent durer quand même très longtemps. Mais ça fait vraiment partie de la réalité que nous vivons autant dans nos services externes que dans nos services à l'interne.
J'imagine que cette situation-là, c'est quand même un fardeau pour les victimes.
Oui, c'est un fardeau pour les victimes. En fait, c'est des victimes qui ne peuvent pas sortir des conséquences qu'ils vivent suite à la violence conjugale. Donc, c'est des conséquences qui persistent, qui perdurent dans le temps, ce qui apporte aussi d'autres types de conséquences qui là deviennent de plus en plus difficiles en fait à travailler pour les femmes. Ça leur apporte aussi des chocs post-traumatiques et tout ça. Donc, par la suite, on va quand même demander aux femmes d'être en capacité de travailler puis d'avoir une vie dite normale, mais la femme, elle va continuer quand même de vivre avec toutes ces peurs-là puis cette hyper-vigilance-là. Donc, c'est vraiment difficile pour elle de pouvoir reprendre leur pouvoir, en fait, sur leur vie.
Et comment on pourrait contrer ce phénomène-là? J'imagine que c'est quand même dur réussir à comme que les gens respectent, en fait, les conditions.
Mais nous, on passe beaucoup par la sensibilisation, par des ateliers, par les discussions. Donc, c'est sûr que au niveau de respecter les conditions, mais pour nous, c'est que ça prend des conditions qui sont peut-être plus serrées ou plus ajustables vraiment au délit qui a été fait. Nous, on est vraiment avec les femmes, donc on va comme essayer au travers tout ça de faire le plus de reprises de pouvoir possible, le plus de petits pas possible en fait avec les femmes, puis de construire leur confiance et leur estime autour de ça, parce qu'effectivement nous on n'a pas de contrôle sur est-ce que monsieur va être par exemple incarcéré jusqu'à son procès, ou il va sortir avec justement des conditions à respecter qu'il ne respectera pas. Puis il y a aussi le fait que chaque fois qu'une condition n'est pas respectée, tu sais, c'est à la femme à retourner porter plainte. Fait que souvent, ça va leur faire revivre la violence. Ça leur fait revivre aussi. Tu sais, le processus de plainte est quand même très long et très difficile. Et ça devient décourageant, en fait, pour elles. Puis nous, on vit vraiment de l'impuissance là, en lien avec ça.
Et les conditions, c'est, par exemple, pas détenir d'armes, pas de drogue, pas d'alcool, aussi pas de rapprochement ou de contact avec la victime. Est-ce que vous estimez que c'est suffisant comme condition?
En fait, on pense qu'il n'y aurait pas de condition qui serait suffisante, surtout si ce n'est pas la première offense. Donc, pour nous, en fait, ce qui va arriver, c'est que si la personne ne respecte pas les conditions, pour nous, c'est un risque, en fait, encore plus grand au niveau de l'homicide conjugal, fait, au niveau du féminicide en soi. Donc, c'est là où ça devient vraiment difficile, parce que l'objectif, nous, c'est que les femmes soient vraiment en sécurité. Donc, on va aller leur dire de porter plainte, de justement d'essayer que monsieur ait des conditions à respecter. Mais là, s'il ne les respecte pas, ben on perd aussi un peu cette espèce de lien de confiance-là avec les femmes. Puis nous, en fait, c'est que dès qu'on voit qu'il y a bris de conditions, pour nous, il y a augmentation, en fait, là, de facteurs à risque pour avoir un féminicide. Donc, c'est vraiment, on arrive à voir que les comportements contrôlants, en fait, vont persister, surtout au niveau de la post-séparation, peu importe qu'est-ce qui est mis en place par le système judiciaire, là. Donc, ça veut dire que si la personne, elle veut avoir le contrôle sur la femme, mais peu importe les conditions qui vont être mises, il ou elle va tenter d'avoir ce contrôle-là.
Et justement, vous avez parlé de féminicide, et là, il y a l'adoption de la loi Gaby Renault qui est en place. Est-ce que vous pensez que ça pourrait aider avec ce phénomène-là?
On le souhaite, en fait, là, c'est une belle nouvelle. On est content de l'adoption de cette loi-là. Donc, on souhaite que ça puisse, en fait, nous permettre de justement pouvoir saisir la relation là, de violence avant qu'elle soit trop tard, ou avant que la victime soit vraiment prise dans ce cycle-là et qu'elle soit plus capable d'en sortir.
Et aussi, dans les données du DPCP, on voyait une baisse de 20%, si je me trompe pas, d'accusations. Est-ce que ça, c'est plutôt positif, ou vous pensez que ça part aussi de la peur plus des femmes?
Moi, je pense que ça parle de la peur, ça parle du découragement aussi, du temps d'attente, du fait que souvent, les femmes qui vont être victimes de violences conjugales et qui vont porter plainte aux criminels, elles vont aussi aller en cour familiale. La cour familiale et la cour criminelle, c'est deux choses différentes. Donc, on va leur demander parfois de ne pas parler du criminel dans le familial. Fait que nous, on accompagne vraiment les femmes là, dans ce processus-là de plainte. Puis on se rend compte que le processus est tellement long qu'il y a des fois où ça va justement décourager les femmes. Moi, dans notre façon de penser à nous, on se dit que c'est probablement 20% de moins, en fait, de femmes qui n'ont juste pas été portées plainte pour la lourdeur de tout ce que ça l'apportait par la suite.
Alors voilà, cette violence conjugale, si vous voulez mon avis, ça démontre toute la faiblesse des gens là, qui procèdent à ça. Je trouve ça triste, finalement. Hein? Et les gens s'aiment comme des fous, puis tout d'un coup, ben ça déborde. Et puis, dans le mauvais sens, j'arrive pas à comprendre, mais que voulez-vous? Je suis pas le seul à pas comprendre. On s'en va vers le bloc actualité, c'est-à-dire qu'on aura pour vous la circulation et, évidemment, le sourire charmeur de Marie-Pierre Poulin aux hautes informations. Pour l'information, restez là, mesdames, messieurs. Vous voulez être bien informés? C'est la promesse qu'on vous fait.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Ah ben, ça ne s'améliore pas du côté de la circulation, évidemment. Vous le savez, hein, comme c'est à tous les jours à cette heure-ci. C'est rouge à partir du boulevard du Golfe sur la 40S vers Repentigny. Et ça, jusqu'Henri Bourassa. Vous reprenez un tout petit peu de vitesse, mais quand même, à cause de la réfection sur la chaussée, sur le pont, ben vous allez avoir de la difficulté à traverser. Par la suite, vous reprenez de la vitesse, malheureusement. Il y a encore une petite congestion sur la 40S du côté, là, à l'approche du boulevard industriel à Repentigny. Et ça, jusqu'à l'Assomption, à peu près, là, où vous allez être au ralenti. Pour ce qui est de Le Gardeur, c'est vert jusqu'à l'entrée sur le pont. Par la suite, la traversée demeure difficile. Pour le 25 Nord, pour le pont de l'Île-Saint-Jean, ben, c'est rouge à partir du pont Payan et c'est congestionné là, jusqu'à la rivière des Mille-Îles. Pour la 640 en direction Est, vous êtes nombreux à partir de la montée du Mai. Ça passe en fait, vous roulez, vous arrêtez, vous continuez un peu à rouler, donc ça passe du jaune au rouge là, en alternance jusqu'à la jonction pour la 40.
Profitez de l'Internet fibre sur le nouveau réseau de fibre d'Autry branché. Avec Flitel, vous obtenez un service rapide, fiable et local à partir de $37.95 par mois. Que ce soit pour le télétravail, le divertissement ou les études, notre fibre est prête à livrer la performance que vous méritez. Et surtout, vous encouragez une entreprise d'ici au développement le plus rapide dans la région. Visitez flitel.ca dès maintenant et branchez-vous à mieux.
Amateurs de pêche, le Festival de la truite mouchetée vous invite à venir taquiner le poisson et à vous amuser au cœur du village de Saint-Alexis-des-Monts. Du 20 au 28 juin, gratuit pour tous et sans permis pour les résidents du Québec. Bingo, feux d'artifice, concours de bûcherons, pêche en famille, jeux gonflables et de nombreux spectacles à ne pas manquer, dont Caïn, la tournée d'adieu le 17 juin, Rock Pilots le 20 juin, Still the One, Shania Twain Québec le 25 juin et un gala mini-star pour les enfants de tous âges. Suivez-nous sur Facebook ou sur Festival de la truite mouchetée. Saint-Alexis-des-Monts, le paradis du plein air et de la truite mouchetée.
Confiez votre véhicule à des pros de confiance. Chez Lustre Auto Saint-Félix, on redonne l'éclat d'un véhicule neuf grâce à notre gamme complète de services. Lavage intérieur et extérieur, cire rapide lustrée, traitement aquapelle longue durée, restauration des phares et bien plus. Un service professionnel, des prix compétitifs et la satisfaction garantie. Venez nous voir au 4164 rue principale à Saint-Félix. Lustre Auto Saint-Félix, bon service, bon prix, puis un char qui brille.
Tous les matins en semaine, commencez la journée avec...
C'est une des raisons de mentir. D'éviter de blesser quelqu'un. Quand on veut pas dire, comment t'es trop, mes nouveaux cheveux? Ah, ça te va bien. C'est
Garde
drôle.
Mon nouveau bébé.
Ah, ça, c'est drôle, hein?
Je sais jamais quoi dire. Je suis devant le bébé.
Tu prendras le truc à ma blonde, elle, dans ce temps-là, ce qu'elle dit, c'est...
Oh, il est bien petit.
Fait que quand elle dit ça...
Attends, son truc. Lanaudière AM, avec Diana France, Louis-Simon Ferland et François Morin. En semaine, dès 7h25, à CFNJ.
Bonjour, c'est Kim de Joliette Nissan. C'est l'événement marqué avec Nissan et cet été, c'est à nous de jouer. Prenez le volant de la Sentra S 2026 en location 60 mois à partir de seulement $77 plus taxes par semaine sans aucun comptant initial chez Joliette Nissan.
Eh bien, en manchette, le projet de la route 125, le Conseil régional de l'environnement se range derrière le BAP. La loi Gabi-Renault est finalement adoptée et on parlera du retour du PEC. Eh bien, Marie-Pierre Poulin, bonjour.
Allô.
Vous êtes le rayon de soleil de la salle des nouvelles, vous le savez.
Mais oui.
Et non seulement le rayon de soleil, mais aussi une athlète, mesdames, messieurs,
oui.
qui est absolument athlétique et vous faites des voltiges, j'ai appris ça.
Ouais, je fais du cheerleading.
C'est pas rien.
Non, c'est pas rien.
Vous avez des épaules deux fois comme les miennes, franchement.
Ouais.
Vous êtes plus forte que moi, vous.
Ben, quand même.
Toi, je dois dire. Écoutez, on va y aller avec les informations quand même. Que de discussion. Le Conseil régional d'environnement, Marie-Pierre, appuie l'avis du BAP au sujet de la voie de contournement de la 125.
Le Conseil régional de l'environnement de Lanaudière se range derrière le bureau d'audience publique sur l'environnement sur le projet de contournement de la route 125 entre Saint-Esprit et Sainte-Julienne en regard des préoccupations soulevées, en regard des impacts sur les milieux naturels et sur la qualité de vie des résidents du secteur. Selon le vice-président du Conseil d'administration du CRE Lanaudière, Francis Bergeron, bien que le projet démontre des gains en matière de fluidité de la circulation, plusieurs aspects fondamentaux doivent être repensés.
On parle de détruire là, près de 90 % d'une forêt de 22 hectares. On parle de venir détruire également des milieux humides de 6 hectares. Ces milieux humides-là sont vraiment importants dans le sud de Lanaudière. On n'en a presque plus. Et le BAP dit, ben, si vous voulez le faire, il faut compenser. Donc, il faut racheter une nouvelle forêt, il faut racheter d'autres terrains fermés, milieux humides. Mais c'est connu dans la mer qu'il n'y avait aucun terrain disponible pour racheter des boisés.
On va parler maintenant des organismes qui se réjouissent de l'adoption de la loi Gabi-Renault.
Plusieurs organismes qui viennent en aide aux femmes victimes de violences conjugales se réjouissent de l'adoption de la loi Gabi-Renault. Rappelons que cette loi permettra de faire une demande de renseignement sur les antécédents de violence de son ou sa partenaire. La maison d'accueil La Traverse, située à Joliette, fait partie du lot. On écoute l'intervenante, Dominique Vincelli-Lorrain.
C'est une belle nouvelle. On est contente de l'adoption de cette loi-là. Donc, on souhaite que ça puisse, en fait, nous permettre de justement pouvoir saisir la relation là, de violence avant qu'elle soit trop tard ou avant que la victime soit vraiment prise dans ce cycle-là puis qu'elle soit plus capable d'en sortir.
C'était attendu. L'Union des municipalités du Québec applaudit le retour du programme le PEC, là, le programme...
Programme de l'expérience québécoise.
L'expérience québécoise, oui, c'est, je l'avais sur le bout de la langue, finalement, ben oui.
L'Union des municipalités du Québec salue la décision du gouvernement de rouvrir le programme de l'expérience québécoise, une mesure attendue qui répond directement aux préoccupations exprimées par le milieu municipal au cours des derniers mois. On se souviendra de la campagne des Cœurs Bleus. Cette réouverture, accompagnée d'une clause de droit acquis, claire et efficace, permet, selon l'UMQ, d'éviter des ruptures de parcours pour des personnes déjà engagées dans un projet d'établissement en français au Québec. On écoute le président et maire de Mascouche, Guillaume Tremblay.
Notre demande était claire, mettre en œuvre une clause de droit acquis pour les personnes déjà engagées dans un projet d'établissement afin d'offrir une transition ordonnée et prévisible entre le PEC et le programme de sélection des travailleurs qualifiés. Et cette prévisibilité, elle est essentielle pour tout le monde, mais la suite va être tout aussi importante. Continuer à bâtir un système d'immigration stable, prévisible et adapté à toutes les régions et les réalités de l'ensemble des régions du Québec.
Tu as dû sûrement prendre ça, toi, les boissons énergisantes. Moi, j'ai jamais pris ça.
Ouais, j'en prends des fois.
Ouais, ça fait effet?
Ouais, quand même. Ouais. J'aime ça en prendre l'après-midi quand je m'endors un peu, là, mais pas trop, parce que sinon, ça peut être dangereux.
Ouais, moi qui fais une petite cocotte l'après-midi, ça me serait utile, peut-être.
Peut-être, ouais. Mais c'est pas pour tout le monde.
Il y a des commerces qui demandent des précisions au sujet de la loi sur les boissons énergisantes.
Oui, les commerces seront assujettis à la nouvelle loi visant à prévenir les effets nocifs de la boisson énergisante sur la santé des jeunes, mais ils demandent des précisions avant son entrée en vigueur dans 6 mois. Ils seront alors interdits de vendre des boissons énergisantes aux jeunes de moins de 16 ans ou de leur en fournir sous peine de forte amende. On parle d'amende allant jusqu'à 62 500 $ en cas de récidive.
Oui,
le président du Québec au Conseil canadien du commerce de détail, Michel Rochette, résume certaines des préoccupations soulevées par les détaillants.
L'important, c'est qu'on va respecter ce qui est sur la table. Sur le plan opérationnel, par contre, il reste quelques observations qui nous font craindre. Les questions, par exemple, de livraison ou de vente en ligne. Pour empêcher la vente aux jeunes, on interdit toute forme de livraison ou de vente en ligne. Il faut que la vente soit faite en personne physique. Ça nous préoccupe un peu parce qu'on est, c'est opérationnellement plus compliqué.
Eh bien, on peut dire que le diable est aux vaches, comme dirait l'autre à Saint-Gabriel-de-Brandon, parce que on s'entend pas du tout avec Hydro-Québec là-bas.
L'administration municipale de Saint-Gabriel-de-Brandon semble être à couteau tiré avec Hydro-Québec au sujet du projet de doublement de la ligne 735 kV qui traverse le territoire. Dans une communication aux citoyens dont nous avons obtenu copie, la municipalité manifeste une certaine inquiétude en regard de l'installation de transformateurs. On indique également qu'Hydro-Québec n'a à ce jour présenté aucune information permettant de justifier les besoins énergétiques nécessitant un développement sur le territoire. Les projets de la société d'État seraient incompatibles avec les projets de planification territoriale de la communauté.
Vous allez nous parler maintenant d'un Hells Angel en cavale.
Oui, la SQ serait sur la trace du Hells Angel Mario Brouillette en lien avec le meurtre de celui qui était surnommé Bobby le Grec, commis le 1er octobre dans un café de Laval. Le Journal de Montréal avance que les policiers ont débarqué ce matin à sa maison de Charlemagne et à son chalet de Saint-Alexis-des-Monts en Mauricie. Le moteur serait le commanditaire du meurtre.
Alors voilà.
Oui, ça complète. Pour d'autres informations, rendez-vous à cfng.net.
Et j'ai entendu dire que vous allez récidiver à 5h30, à 17h30 avec votre prochain bulletin, n'est-ce pas?
Oui, exactement.
Merci, Marie-Pierre.
Bienvenue.
Lanaudière PM. Lanaudière PM. Michel Arnois. CFNG. Lanaudière PM. Tourisme.
Eh bien, après Repentigny et la Valtrie, c'était au tour aujourd'hui, de Saint-Sulpice d'inaugurer la Route Bleue. La Route Bleue, c'est quoi? Ben, c'est un grand réseau de corridors de navigation sur le fleuve Saint-Laurent. C'est magnifique dans ce coin-là. Je sais pas si vous passez sur la rue Notre-Dame à l'occasion. C'est d'une beauté fabuleuse. C'était aussi le temps pour le maire Steve Mador, l'occasion d'annoncer la première phase d'aménagement d'un parc riverain sur le territoire de sa municipalité. Et notre collègue enthousiaste, s'il en est un, Régent Turgeon, l'a rencontré.
Monsieur Steve Mador, maire de Saint-Sulpice, bien après Repentigny et la Valtrie, autour de Saint-Sulpice, d'inaugurer la Route Bleue. C'est important, la Route Bleue pour Saint-Sulpice.
Ben oui, effectivement. Le fleuve Saint-Laurent borde Saint-Sulpice. C'est le joyau et c'est un des attractions les plus importantes de Saint-Sulpice. Donc, c'est important pour nous de pouvoir se joindre à ce magnifique projet-là qui est la Route Bleue. Et aussi de pouvoir faire la connexion avec Repentigny et l'Assomption. C'est un beau partenariat. C'est quelque chose qui doit... Je pense que c'est une belle initiative. C'est probablement une petite étincelle qui va peut-être emmener, ou on sait jamais, à d'autres projets intermunicipaux.
Et là, pour justement agrémenter cette Route Bleue et inciter des gens, la ville Saint-Sulpice a fait des acquisitions. On va permettre à des gens justement d'accéder au fleuve.
Ben oui, effectivement, pour la Route Bleue, on a eu la chance de pouvoir participer, d'accéder au Parit 1, qui était géré et administré par Loisirs Sport Lanaudière, une partie à tout de moins, qui nous a permis de pouvoir acquérir des kayaks, de pouvoir accueillir des vélos électriques, de pouvoir accueillir tous les équipements de sécurité qui nous permettent de pouvoir faire la location, parce qu'on a 4 sorties de cet été qui va y avoir guidées. Donc, ça nous permet de pouvoir faire ces sorties-là, de permettre aux citoyens, aux touristes de pouvoir venir sur notre fleuve et de pouvoir redécouvrir le fleuve et sa biodiversité et voir l'image de nos municipalités aussi de la vue du fleuve.
Mais plus que la Route Bleue aujourd'hui à Saint-Sulpice, là, c'est l'inauguration de ce qu'on va vous appeler la phase 1 de votre parc riverain. On le voit, là, l'accès au quai et tout ça. Qu'est-ce qu'on a ici au parc riverain?
Bien, en fait, la première phase, c'était d'accueillir, de pouvoir s'intégrer à la Route Bleue, de pouvoir acquérir aussi du mobilier urbain au niveau de notre municipalité. Et ce qui permet de pouvoir... Notre but, c'est de pouvoir avoir un milieu de vie à l'intérieur de notre quai. En plus, ça, c'était notre première phase. La deuxième phase, et là, ça va être plus de... On a un petit enjeu ici, c'est-à-dire c'est un bel enjeu d'une certaine façon. On a plusieurs personnes qui viennent, plusieurs citoyens qui cohabitent. C'est-à-dire, on a les petits pêcheurs, on a les petites embarcations moteurs, on a des kayaks, des planches à pagaies. Donc, c'est tous ces gens-là qui viennent au quai. Mais étant donné que la grandeur du quai, des fois, il peut y avoir pas toujours une belle cohabitation, on va dire ça comme ça. Ben le but, ça va être d'en créer une belle cohabitation, c'est-à-dire de pouvoir agrandir nos quais, de pouvoir faire des stations pour permettre à tous ces gens-là de pouvoir cohabiter.
Vous avez parlé du Parit tantôt, ce qu'on a appelé là, le programme d'aide de relance de l'industrie touristique. C'est ça la subvention de 300 000 $ dont vous m'avez parlé?
Effectivement, il y avait 80% qui venaient du Paris, 20% de la MRC, qui nous a permis à tout le moins de pouvoir acquérir tous ces équipements-là, puis de pouvoir commencer notre parc riverain. On est bien contents, puis on remercie aussi le ministère du Tourisme pour ça.
La prochaine phase, c'est au cours, évidemment, des prochaines semaines, des prochains mois. On va voir le projet final, quoi, en 2027?
Ben, idéalement, ce qu'on souhaite, je vous dirais, on va regarder. Tout est une question de subvention, de sous, puis de voir comment est-ce qu'on va être capable de le réaliser. La première phase, on s'est adjoint à tout de moins des ressources qui sont dans le domaine, okay, qui vont nous permettre de pouvoir élaborer des plans, de voir jusqu'à où on est capable de rêver. Et puis après ça, ben ça va être de pouvoir le réaliser, ces plans-là. On espère que d'ici 2 à 3 ans, effectivement, le parc soit complété.
Au final, M. Mador, la roue bleue, moi, je reviens sur l'importance de la collaboration entre les institutions, les municipalités. Ça, c'est un succès en soi, là.
Ah, tout à fait, tout à fait. On le voit, tu sais, puis M. Thériault l'a mentionné tantôt. Ça prend des gens avec cette même volonté-là, cette même vision-là. Puis nous, dans la région, on est chanceux de l'avoir. On est chanceux d'avoir ces partenaires-là et cette collaboration-là qui permet de pouvoir faire des projets d'envergure, je vais dire ça comme ça, parce que la route bleue part elle passe par ici, mais elle peut se rendre jusqu'aux îles de la Madeleine. Donc, c'est ce qu'on souhaite. On va voir éventuellement avec les années. Il y a probablement d'autres municipalités qui vont vouloir se joindre à ce beau projet-là.
C'est un très beau projet.
Merci, M. Turgeon.
Oui, voilà. Merci, M. Turgeon. C'est un très beau projet. Dans un instant, il y a le fédéral qui veut légiférer sur les réseaux sociaux, interdire les jeunes de moins de 16 ans. On en parle avec qui? Avec Jacques Plante. Lui, on ne peut pas rien lui interdire. Vous allez voir ça.
Innover avec confiance. Des portes et fenêtres durables, performantes, sécuritaires et pensées pour notre climat comme la gamme de fenêtres Fenplast. Justement, passez découvrir la fenêtre Premia Fenplast dans notre toute nouvelle salle de montre. Et profitez-en pour faire le tour de notre centre de liquidation qui vous offre des produits neufs en parfait état avec des rabais pouvant atteindre jusqu'à 70%. Fenêtrage Saint-Ambroise, confort, qualité et tranquillité d'esprit. 950 route 343 à Saint-Ambroise de Kildare ou fenêtrage.ca.
Pour la fête nationale, CFNJ célèbre les 50 ans d'un événement marquant de l'histoire culturelle du Québec. Le spectacle Une fois 5.
C'était au mois de juin 1976.
Avec Claude Léveillé, Yvon Deschamps, Jean-Pierre Ferland, Gilles Vigneault et Robert Charlebois.
You're a frog, I'm a frog, kiss me.
Aimons-nous quand même.
C'est moi.
50 ans plus tard, revivez ce concert mythique, Une fois 5, le mardi 23 juin, dès 22h à CFNJ.
Amateurs de pêche, le Festival de la truite mouchetée vous invite à venir taquiner le poisson et à vous amuser au cœur du village de Saint-Alexis-des-Monts. Du 20 au 28 juin, gratuit pour tous et sans permis pour les résidents du Québec. Bingo, feux d'artifice, concours de bûcherons, pêche en famille, jeux gonflables et de nombreux spectacles à ne pas manquer, dont Caïn, la tournée d'adieu le 17 juin, Rock Pilots le 20 juin, Still the One, Shania Twain Québec le 25 juin et un gala mini-star pour les enfants de tous âges. Suivez-nous sur Facebook ou sur Festival de la truite mouchetée. Saint-Alexis-des-Monts, le paradis du plein air et de la truite mouchetée.
Entreprises et organismes à l'écoute, ne manquez pas votre chance de briller au Salon 50+ de la FADOC Région Lanaudière, présenté pour une troisième année consécutive par les Habitations Bordelot. Les 25 et 26 septembre, venez rencontrer des milliers de visiteurs aux Galeries Joliette. C'est l'occasion idéale de faire connaître vos produits et services à une clientèle active et engagée. Réservez votre kiosque dès maintenant. Contactez la FADOC ou visitez lefadoc.ca pour tous les détails. Soyez exposants au Salon 50+ et faites rayonner votre organisation.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 $ en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte?
Bingo! Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ à Saint-Marcel-de-Richelieu, Épicerie Marie, à Saint-David-Diamasca, Marché du Village, à Saint-Germain-de-Grand-Am, Marché du Village, Dépanneur 122, BMR Express Saint-Guillaume, Aguisca Coopérative, à Pierreville, Dépanneur Gamelin, Dépanne Express, à Yamaska, Marché Blanchette et Vincent. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
À CFNJ, voici le commentaire de Jacques Plante.
Jacques Plante, mes hommages.
Même chose, Monsieur Arnois.
Avant de sauter dans le vif du sujet,
oui.
J'aimerais me joindre à l'équipe de CFNJ ici pour souhaiter à tout le groupe du Carrefour Jeunesse Emploi nos félicitations. 30 ans d'engagement de votre organisme,
c'est pas rien. Oui.
Vous avez, au cours de la dernière année, parce que vous travaillez là, il faut le mentionner.
Ouais, ça fait 13 ans.
Ouais, il y a eu 3752 jeunes qui ont été accueillis par le Carrefour l'an dernier. Parmi eux, 1027 ont bénéficié de services en employabilité, 494 ont participé à des projets en persévérance scolaire et 978 ont pris part à des initiatives qui favorisent l'engagement dans la communauté. Je dis chapeau à toute votre équipe.
Ben, je vais transmettre le message. Je sais qu'il y en a qui écoutent des gens, puis il y a autant les gens de la direction, le conseil d'administration et toute l'équipe qui est là aussi. Tout le monde travaille fort, mais on fait ça dans la joie.
Mais ça tombe bien que vous travaillez là-bas, puisque le sujet concerne la jeunesse aujourd'hui.
Ben oui.
On parle du gouvernement fédéral qui veut établir à 16 ans l'âge minimal pour utiliser les réseaux sociaux. Ça me fait bien rire. Est-ce que c'est le rôle du gouvernement, Jacques?
Ben, oui, d'une part, mais juste avant, pour nos auditeurs, c'est que, bon, avant qu'on fasse l'émission cet après-midi, moi et Michel, on échange, comme je fais avec Claude, tu sais. Et Michel me dit, ben, ça tombe bien, notre sujet, t'es au Carrefour et tout ça. Et j'avais quand même quelques jeunes qui étaient là aujourd'hui, parce qu'il y avait une activité de groupe. Alors, je suis allé les voir. Puis... Tu sais, les jeunes...
T'as pas fait un vox pop ou un sondage maison?
Non, mais j'avais pas d'équipement, mais les filles au bureau, ils me connaissent. Fait qu'ils ont dit, écoutez, Jacques, oui, vous le voyez ici dans le corridor, mais il fait aussi de la radio. Et là, c'est, ah oui, tu fais de la radio. C'est tout le temps bien drôle. Et là, je leur posais la question, et j'ai pas un échantillon de 1000, Michel, mais j'ai jasé avec des jeunes femmes, 17, 19, 21, et peut-être une de 24, 25, et c'est unanime. Elles sont toutes d'accord avec ça, l'idée.
De faire une législation?
Oui, de faire en sorte que d'interdire au moins de 16 ans l'accès.
Moi, j'ai fait
c'est spécial, j'ai fait
le même exercice que vous, moi, mais avec les vieux.
Ici, à la station.
Oui, toute la gang de vieux.
Oui.
Et ils sont tous pas d'accord.
Ah, tu vois?
Ah, ils disent que c'est pas d'affaire du gouvernement de se mêler de ça.
Ben,
c'est l'affaire des parents.
Bon, ben, ce que la gang de vieux ici, moi, je vais être de ce bord-là aussi, parce que je suis un vieux. Parce que je suis un peu d'accord avec eux, mais ce qui m'a vraiment surpris, j'avais vu hier à la télé, là, un vox pop qui était fait avec des jeunes, puis c'était comme assez partagé. Moi, comme je te dis, j'ai pas un échantillon de 50 personnes. Mais j'ai été surpris de la réaction des jeunes au CJE à dire « on est d'accord avec ça ».
Vous savez qu'ils l'ont fait en Australie, Jacques.
Oui, puis ça n'a pas marché.
Et 70 % des jeunes de cet âge-là, en bas de 16 ans, là, ben, ils réussissent quand même à contourner la patente puis à aller sur YouTube, aller sur Instagram, aller sur les autres réseaux sociaux.
Utiliser d'autres plateformes, il y en a même qui passent par ce qu'on appelle le « dark web ».
Si on vous avait dit, vous, à l'âge de 13, 14, 15 ans, Jacques Plante, si on t'avait dit... T'es défendu d'acheter le 10 des cyniques.
Oui.
Tu vas te promener, toi.
Ben, moi, déjà...
Je sais pas, là, je donne un exemple.
Oui, non, t'as raison,
c'est
mais...
C'est un média comme un autre.
Tu sais, moi, ce qui me vient en tête, là, c'est Papa Trudeau. Je parle pas de Justin, mais de son père, Pierre Elliott, qui, dans une entrevue, parce que déjà, à l'époque, je suivais la politique, j'ai toujours aimé ça, il avait dit, non, le gouvernement du Canada n'ira pas dans la chambre à coucher.
Oui.
J'ai jamais oublié cette phrase-là. Là, ils viennent jouer dans nos affaires. Il y a bien d'autres choses à régler que ça. Et un commentaire que j'avais, une des jeunes filles au Carrefour disait, les parents, ils doivent mettre le code, là, tu sais, le contrôle parental, c'est possible, ça existe.
Oui.
Il faut qu'on fasse une surveillance. Parce que, tu sais, on regarde, là, c'est vraiment un petit coup politique avant l'ajournement des travaux de la Chambre des communes. Parce que, pour l'instant, il va y avoir une nouvelle commission de la sécurité numérique en consultation avec les plateformes après qu'on aurait élaboré des règlements.
On est loin de la coupe
aux lèvres. On est loin. Et on dit, quand la loi va entrer en vigueur, 18 mois après, on sera en mesure de l'appliquer à peu près. Parce que là, il va falloir mettre cette nouvelle commission-là sur pied. Et ça veut dire il faut que ça passe aux trois étapes de lecture. Il faut que ça passe devant le Sénat. Ça revient. Le Sénat a dit « OK, Il y a eu lecture en chambre, OK, sanction royale. Alors, si jamais ils vont vite, ça peut se faire à l'automne, avant le temps des fêtes, et après ça, calculer un an et demi, 18 mois avant quelconque application. Pendant ce temps-là, je suis persuadé que les réseaux sociaux vont se lever de bord pour trouver des trucs pour passer à côté de ça. Parce qu'on sort encore, Michel, la bonne vieille méthode, les plateformes qui vont refuser de se conformer, on parle d'une amende de 3 % de leurs revenus ou 10 millions de dollars. Ça avait été appliqué, c'est en 2024, le gouvernement Trudeau. Hein, il s'alignait là-dessus, de les faire payer. C'est mort au feuilleton parce qu'on ajournait à la Chambre des communes.
Non, non,
c'est le même
payé.
Scénario. Ils n'ont jamais rien payé. Puis je ne suis pas sûr qu'ils vont payer. Et quand c'est grand réseau...
En fait, ce que la loi veut faire, c'est qu'elle veut obliger les grands joueurs du web à mettre des mesures pour vérifier l'âge des jeunes.
Sinon, notre bon gouvernement, il est menotté. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il faut qu'il s'acoquine avec eux autres. Là.
Absolument.
C'est eux autres qui ont le bon bout du bâton. Et n'oublie pas, on est en pleine négociation de la CEUM.
Ah oui,
et la plupart des plateformes sont américaines. Alors, regarde bien le grand orange, monsieur mangeux de Big Mac, intervenir là-dedans aussi pour protéger son monde. Alors, on n'est pas sorti de l'auberge, là.
Ah non, pas du tout.
Sauf que, cerise sur le Sunday, juste encore un peu de temps, oui.
Oui, encore 30 secondes, mon cher.
La protection des mineurs en ligne fait partie des thèmes qui vont être discutés lors du sommet du G7 à Évian, en France, la semaine prochaine.
Ah oui?
Hein, ça tombe bien. Le président français, Emmanuel Macron, qui est l'autre, qui reçoit tout le monde, veut interdire l'accès aux réseaux sociaux au moins de 15 ans.
Moins de 15 ans?
Alors,
bon. Vous savez ce qu'on dit? À Évian, on met d'eau dans son vin.
Oui, c'est sûr. Ben, moi, j'en mets un peu moins, là. Mais, mais tu vois, c'est que M. Carney va arriver avec, dans son portfolio, une petite feuille qui dit, ben, nous aussi, on travaille là-dessus, mon cher Manu.
Ah oui.
Hein, c'est juste une question politique, parce que, selon moi, c'est pas demain la veille qu'on va avoir une réglementation là-dessus. Et comme tu l'évoquais si bien tantôt, ils vont trouver plein de moyens de contourner ça. L'important, c'est de ne pas se faire pogner.
Je vous interdis d'être absent mardi prochain.
Mardi prochain?
Oui.
Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Est-ce que je peux savoir?
Ben, vous allez revenir avec nous.
Oui, mardi, je suis là. Il nous reste deux émissions.
Je vous interdis d'être absent. Merci, Jacques Plante.
OK, je comprends l'interdiction. Là.
Un gros merci.
Ça a pris du temps.
Oui, oui, c'est ça. C'est
salut.
Mon nom à stage, là, que
salut.
Voulez-vous.
C'est ça.
Éric Richard, directeur de la DPJ, dans nos dires, était avec nous. Dominique Vincelli-Laurent, intervenante en sensibilisation et en services externes dans la maison d'accueil La Traverse. Steve Mador, maire de Saint-Sulpice, nous parlait de la route bleue. Jacques Plante, de la législation pour les moins de 16 ans. Un gros merci à Marie-Pierre Poulain pour les informations. Régent Turgeon et François Morin ont participé à l'émission. Ici Michel Arnois, qui vous donne rendez-vous lundi prochain, toujours en remplacement de Claude Fournel en vacances, mais qui ne peut pas s'empêcher de venir nous voir 2 jours sur 4, tellement il nous aime.
C'est pas interdit.
Bon jeudi soir. Si.